Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission consacrée aux équidés et à leur univers. Dans ce dernier, des chevaux brillent au firmament, véritables stars immortalisées au cinéma, dans des romans ou en peinture. Certains ont même été naturalisés, comme le Vizir, le cheval de Napoléon, ou Trigger, celui de Roy Rogers, dont nous avons parlé dans des émissions précédentes. Mais beaucoup hantent également les musées sous une autre forme, leur squelette. Nous avions évoqué lors du bicentenaire de la mort de Napoléon une autre de ses montures, Marengo, dont le squelette est exposé au National Army Museum à Londres. La conservation des squelettes de chevaux célèbres était quelque chose de commun dans les siècles passés et, en plus, témoigne d'un intérêt scientifique face à un animal hors norme. Cela est particulièrement vrai dans le monde anglo-saxon. Nous allons donc nous pencher aujourd'hui sur ces chevaux fantômes qui hantent ou ont hanté les musées du monde entier en Angleterre, aux États-Unis et en Australie. À tout seigneur tout honneur, le premier cheval dont nous allons parler est un des chevaux de course les plus célèbres de l'histoire, Eclipse. Né le 1er avril 1764, un jour d'éclipse solaire, ce qui lui a valu son nom, il a pour arrière-arrière-grand-père Darley Arabian, du côté de son père, et pour grand-père Godolphin Arabian, par sa mère. Ces deux grands étalons orientaux sont à l'origine de la race des purs sang anglais. Eclipse est le plus grand champion de son temps. Au cours des 17 mois que dura sa carrière en course, il est demeuré invaincu, remportant 18 courses, écœurant par là même tous ses concurrents et leurs propriétaires qui n'osaient plus aligner leurs chevaux contre lui. Son nom est même entré dans le langage commun en anglais « Eclipse first, the rest nowhere ». Premier Eclipse, les autres distancés, expression d'une domination indiscutable. Eclipse a également été un grand reproducteur après avoir pris sa retraite en octobre 1770, engendrant des descendants qui remporteront 352 courses. Cela n'est pas sans conséquence, car en 2013, des chercheurs de l'université de Vienne en Autriche découvrirent que la plupart des purs sang anglais modernes possèdent l'ADN d'Eclipse. Mais revenons en Angleterre au XVIIIe siècle. Peu de temps avant la mort d'Eclipse, le vétérinaire français Charles Vial de Saint-Bel put prendre les mesures de l'étalon. Il publia ses recherches dans « An Essay on the Proportions of the Celebrated Eclipse », essai sur les proportions du célèbre Eclipse, établissant un nouveau canon de beauté. Vial de Saint-Bel, qui avait émigré en Angleterre, était le seul vétérinaire qualifié dans ce pays pour entreprendre une telle étude. Il fonda d'ailleurs en 1790 le Royal Veterinary College, premier établissement d'enseignement vétérinaire en langue anglaise. Eclipse mourut en 1789 suite à une attaque de colique. Il avait 24 ans. Une autopsie révéla qu'il avait un cœur d'un poids anormalement lourd, 6,4 kg. Le poids moyen du cœur d'un cheval étant de 3 kg. Son squelette se trouve aujourd'hui au Royal Veterinary College. Les sabots ne sont probablement pas les siens, car comme pour le cas de Marengo, ils ont été offerts et souvent transformés en encriers. Les scientifiques modernes, qui bénéficient de techniques nouvelles, essaient de comprendre pourquoi Eclipse a été un tel champion. Si leurs travaux portent sur la génétique, ils ont pu extraire de l'ADN d'une de ses dents, son squelette a lui aussi beaucoup de choses à nous apprendre. Pour cela, le collège a créé un groupe de travail dédié à la structure et au mouvement qui s'est penché sur Eclipse. Ils ont rassemblé tout ce qu'ils pouvaient savoir sur le champion à partir des tableaux qui l'ont représenté, dont ceux peints par Stubbs, des scanners de son squelette et des comptes rendus des courses de l'époque. À l'aide d'un logiciel, ils ont ainsi créé des modèles du cheval. L'analyse du squelette d'Eclipse leur a permis de reconstituer des membres théoriques, c'est le terme employé. Puis, ils ont tenté de répondre à certaines questions. Non seulement pourquoi Eclipse était-il si rapide, mais aussi pourquoi les chevaux peuvent-ils rester en équilibre alors que chaque jambe reste en suspension pendant 80% du temps lorsqu'ils galopent, et qu'est-ce qui limite la vitesse maximum d'un cheval au galop? Pour le docteur Alan Wilson, qui dirige cette étude, je cite, « tous les facteurs liés à la vitesse correspondaient parfaitement. Ce qui est primordial pour un cheval rapide, c'est sa capacité à lancer ses jambes en avant rapidement, ce qui est difficile pour les grands animaux avec des membres longs. Eclipse était plus petit que les chevaux de course actuels. Plutôt qu'être un monstre de la nature aux propriétés incroyables, il avait juste ce qu'il fallait dans tous les domaines. On peut dire ainsi que sa vitesse légendaire était donc probablement liée à un physique plutôt moyen. » Partons maintenant aux États-Unis pour parler d'un autre grand cheval de course dont le squelette appartient aux collections du Smithsonian, le musée d'histoire naturelle de Washington. Lexington, c'est son nom, a remporté 6 des 7 courses auxquelles il a participé. À l'époque, il était le champion incontesté des courses de 4 miles, c'est-à-dire près de 6,5 km. Il est né le 17 mars 1850 sous le nom de Darley, car son éleveur et propriétaire, le docteur Warfield, trouvait qu'il ressemblait au célèbre reproducteur arabe, père lui aussi de la race des pur-sang anglais. Son père, Boston, était un grand champion et un des reproducteurs les plus importants de l'époque. Le docteur Warfield était un éleveur réputé du Kentucky et l'un des fondateurs de l'hippodrome qui a été édifié à côté de sa propriété. Dès la première course de Darley, le cheval montra d'extraordinaires dispositions, première course qu'il remporta. Il fut ensuite acheté par Richard Tenbrook, un grand promoteur des courses hippiques qui avait son propre hippodrome à Métairie, à la Nouvelle-Orléans. Il le rebaptisa Lexington, en l'honneur de la ville où le cheval vit le jour. Il y bâtit son rival le Comte, un autre fils de Boston, établissant ainsi sa légende. Le 2 avril 1855, il établit un record en avalant 6,5 km en 7 minutes 19 secondes 3 quarts, devenant le cheval le plus rapide du monde à l'époque. Son entraîneur John Pryor le décrivit en ces termes. Il pouvait aller plus vite au bout de 4 miles que la plupart des chevaux qui en avaient couru un demi. J'ai entraîné beaucoup de chevaux pendant 30 ans et je peux affirmer que Lexington est le meilleur cheval de course du pays. Et j'ajouterai que quiconque ayant vu Lexington marcher tranquillement parmi la foule enthousiaste qui se pressait autour de lui, comme si son triomphe était quelque chose qu'il comprenait parfaitement, ne peut douter qu'il a du sentiment, de la mémoire et un sens de la réflexion propre aux chevaux. Et pourtant, des mortels présomptueux affirmeront qu'un tel animal n'a pas d'âme. C'est sur cette victoire du 14 avril 1855 que prit fin la carrière de Lexington. En effet, le cheval était en train de perdre la vue, comme son père avant lui. Avant d'en savoir un peu plus, je vous propose d'écouter maintenant Elton John et Jimmy Allen, Beauty in the Bones. There was a time when I was feeling incomplete, lost in the shadow of the person I could be, chasing perfection in every direction, so focused on the end, I didn't see the journey. And taking every step, every long road, song that I have wrote, brought me to where I am. Every root turns into branches, every question leads to answers, even
bones, beauty in the bones,
beauty in the bones,
there's beauty in the bones.
Lexington était un cheval magnifique, de taille moyenne comme Eclipse, 1,55 m au garrot, avec des épaules et des postérieurs très puissants. Tenbrook le vendit ensuite à l'éleveur Robert Alexander. Les premiers poulains de Lexington se révélèrent excellents et sa réputation en tant qu'étalon allait égaler celle du compétiteur. Mais la guerre de sécession, je rappelle 1861-1865, n'allait pas épargner les éleveurs. De nombreux chevaux furent utilisés dans l'armée où ils moururent, d'autres furent volés, ce qui amena Robert Alexander à envoyer les siens dans l'Illinois afin de les protéger. Ils y restèrent jusqu'à la fin de la guerre avant de revenir dans le Kentucky. À la mort de l'éleveur, son frère reprit le flambeau de l'élevage en 1867. Lexington mourut, lui, le 1er juillet 1875, à l'âge de 25 ans, suite à une infection nasale. Il fut enterré dans un cercueil au haras, une stèle commémorant sa tombe, ce qui est tout à fait inhabituel pour un cheval. En 1878, son propriétaire accepta de donner ses os au United States National Museum. Son squelette fut exhumé afin d'être étudié, puis ses os furent articulés afin qu'ils puissent être exposés. Mais dans les années 1970, son identité se perdit et il ne devint plus qu'un spécimen de cheval au musée d'histoire naturelle. Ce n'est qu'en 1999 que son illustre identité fut redécouverte. En 2010, à l'occasion des Jeux équestres mondiaux qui se tinrent pour la première fois aux USA, dans le Kentucky, le Musée international du cheval du Kentucky, une filiale du Smithsonian, demanda le transfert de son squelette dans sa région natale où il maintenant a demeure. Au cours du remontage du squelette, les conservateurs remarquèrent que l'os autour de l'orbite était déformé. Cela signifie que la cécité de Lexington n'était pas congénitale, comme on l'avait cru, mais due à un abcès. L'influence du cheval a été immense. Il engendra 575 poulains. À ce jour, aucun étalon n'a produit autant de champions que lui. Son image reste partout présente aujourd'hui, indiquant notamment des haras aux visiteurs. Car en effet, sa silhouette, d'après un tableau de Troy peint en bleu, comme l'herbe bleue, le pâturin des prés que l'on trouve dans les pâturages du Kentucky et qui a donné son surnom à l'état, Bluegrass Country, état de l'herbe bleue, est partout présent dans le Kentucky. Si les chevaux de course ont fait l'objet de tels soins, ils ne sont pas les seuls dont les squelettes ont survécu avec plus ou moins de bonheur. C'est le cas notamment de nombreuses montures des grands généraux américains. Parmi eux, il y avait celui de Traveller, le célèbre cheval du général Robert E. Lee. Né en Virginie en 1857, ce beau cheval gris d'1,63 m au garrot fut acheté par Lee au printemps 1861. Il le rebaptisa du nom de Traveller. Le général avait une passion pour son cheval qu'il décrivit ainsi dans une lettre à sa cousine Marquis Williams. « Si j'étais un artiste comme toi, je ferais un vrai tableau de Traveller. Représentant ses belles proportions, sa silhouette athlétique, son poitrail profond, son dos court, ses hanches fortes, ses jambes plates, sa petite tête, son large front, ses oreilles délicates, ses yeux vifs, sa crinière et sa queue noire. Un tel tableau inspirerait un poète dont le génie pourrait alors dépeindre toute la valeur et décrire son endurance face au travail, à la faim, la soif, la chaleur et le froid, et les dangers et les souffrances qu'il a connues. Il pourrait s'étendre sur sa sagacité et son affection et sa réponse invariable à tous les souhaits de son cavalier. Il pourrait même imaginer ses pensées au cours des longues marches nocturnes et des jours de bataille qu'il a traversés. Mais je ne suis pas un artiste, Marquis, et je ne peux que dire qu'il était un gris confédéré. » Le général Lee ne pouvait pas savoir qu'en 1988, l'écrivain anglais Richard Adams allait donner à Traveller la possibilité de narrer son histoire dans un magnifique roman qui porte son nom, mais qui, hélas, n'a pas été traduit en français. Mis à la retraite par Lee, Traveller contracta le tétanos et dut être abattu en 1872 pour lui épargner des souffrances. Il suivit ainsi son maître dans la tombe. Le cheval a tout d'abord été enterré, puis exhumé par des inconnus, ses os ayant été exposés ensuite à Rochester dans l'état de New York de 1875 à 1876. Puis le journaliste Joseph Bryant les a achetés et son squelette fut articulé et exposé à l'université Washington and Lee à Lexington en Virginie dans le Brooks Museum. Périodiquement vandalisé par les étudiants qui égravaient leur nom par superstition, il fut alors installé dans le sous-sol de la chapelle de l'université où il se détériora. Finalement, le 8 mai 1971, Traveller a été à nouveau enterré dans une boîte en bois scellée dans du béton, près de la chapelle, à quelques mètres de la crypte familiale où repose le général. L'écurie où vécut le cheval à ses derniers jours est directement connectée à la maison de Lee sur le campus. Lee était le président de l'université de 1865 à sa mort en 1870. Et les portes de cette écurie restent ouvertes, car on dit que son esprit aime se déplacer librement. Nous allons terminer cette émission par une légende du sport en Australie, Farlap. Il a gagné 37 courses sur les 51 qu'il a disputées, y compris la célèbre Melbourne Cup en 1930. Farlap est né le 4 octobre 1926 en Nouvelle-Zélande. Repéré par l'entraîneur australien Harry Telford, il fut acheté par, sur ses conseils par l'homme d'affaires américain David G. Davis pour la modeste somme de 160 livres. Avec ses 1,70 m au garrot, c'est un cheval puissant. Pourtant, il ne séduit pas son acheteur, qui le loue à l'entraîneur. Celui-ci va prendre à ses frais l'entraînement. Et c'est le jeune Tommy Woodcock qui va s'occuper de lui. En 1929, Farlap termine dernier de sa première course. Mais un an plus tard, il en avait déjà remporté 19 sur 21, des victoires qu'il gagne facilement avec plusieurs longueurs d'avance. Il ira même jusqu'à 20 longueurs d'avance sur l'hippodrome de Flemington en mars. C'est un cheval de fond qui aime les distances longues. Sa gloire a coïncidé avec le début de la Grande Dépression en 1929. Venu de nulle part, acheté pour une bouchée de pain, Farlap incarne l'espoir des gens ordinaires qui le surnomment Red Terror, la terreur rouge, ou Big Red, le grand alezan, car telle est sa couleur. Son image est partout, sur les cartes postales, les affiches publicitaires pour la bière, les paquets de cigarettes. Mais cette gloire lui vaut des ennemis. En 1930, trois jours avant la Melbourne Cup, on tire sur lui depuis une voiture alors qu'il marchait dans les rues avec Tommy Woodcock. Le sang-froid de ce dernier, qui s'est interposé avec son poney entre le pur sang et la voiture, lui sauve la vie. Et c'est sous escorte policière que le pur sang se rendit sur l'hippodrome le jour de la course, qu'il remporta avec trois longueurs d'avance en 3 minutes 27 secondes sur une distance donc de 3200 mètres. Le lendemain, dans le Sydney Morning Herald, on pouvait lire « Jamais aucune Melbourne Cup ni autre course dans l'état du Victoria n'a intéressé autant de gens ni attiré autant l'attention du public. Un appel à l'imagination centré essentiellement sur un cheval, Farlap, qui est devenu rien de moins qu'une obsession dans l'esprit du public. » Après un tel succès et ayant tout gagné en Australie, Davis et Telford décidèrent d'envoyer leur cheval en Amérique, au Mexique, pour disputer le handicap Agua Caliente, la course la plus dotée au monde, à l'époque bien sûr. Farlap la remporta avec deux longueurs d'avance, mais 16 jours plus tard, il mourait dans des circonstances mystérieuses à San Francisco. Sa mort fut vécue comme une tragédie par les Australiens, certains pensant qu'il avait été empoisonné. À ce jour, la question n'a pas été tranchée. Les institutions australiennes se disputèrent sa dépouille. Son cœur, presque aussi gros que celui d'Eclipse avec ses 6,35 kg, avait été renvoyé en Australie après sa mort afin de lui faire subir des tests. Puis il fut donné à l'Institut australien d'anatomie où il fut exposé pendant plusieurs années. Il est aujourd'hui visible au National Museum Australia à Canberra. Sa peau a été donnée au Musée national de l'État du Victoria où il a été naturalisé. Il y est exposé depuis 1933. Son squelette a été envoyé au Dominion Museum de Nouvelle-Zélande. En septembre 2010, pour marquer les 80 ans de la victoire de Farlap dans la Melbourne Cup, il a été exceptionnellement prêté au National Museum of Victoria pour 4 mois. Tous ces chevaux que nous venons d'évoquer font partie de l'imaginaire collectif. Ils ont été admirés et aimés et continuent de l'être, leur squelette les rendant en quelque sorte immortels. Même s'ils apparaissent dans les catalogues sous l'étiquette Equus Caballus, ils sont plus que cela pour ceux qui voient au-delà des apparences et pour les scientifiques qui cherchent à approfondir toujours plus leurs connaissances sur ces chevaux exceptionnels. Bonne semaine à toutes et à tous et à très vite pour une nouvelle émission.